Votre cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Chanceux que nous sommes, nous disposons de l'outil que tous les érudits et tous les humanistes de la Renaissance ont rêvé. Il s'agit de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France. Un site internet quoi. Je connais peu de plaisir aussi grand, intellectuel, esthétique, que de se perdre parmi ces millions de livres numérisés. De chez soi, il est possible de découvrir un manuscrit enluminé et d'agrandir le détail d'une lettrine, de feuilleter les mémoires de Casanova, le manuscrit, hein, ou la première édition des Fleurs du Mal, et de compulser un incunable ou un illustré pour la jeunesse, voilà qui procure une sorte de vertige. Gallica est un incroyable outil de recherche qui nous offre une indexation géante de temps et temps d'ouvrages. Cherchez un mot et les résultats se comptent par milliers. Ce site est un trésor, mais comme tous les trésors, la taille compte. Ah bah, ce n'est pas la même chose que découvrir quelques pièces d'or et de les emporter dans sa poche, que de tomber sur la caverne d'Ali Baba où, face à l'accumulation de pierreries, de bijoux, de joyaux, nous ne savons plus par quoi commencer. Si un livre est un trésor, comment répondre à l'angoisse de trop de livres? Il est urgent d'organiser, de classer et de trier afin de conserver tous ces savoirs. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire de la transmission des savoirs. Oui, nous avons parlé de l'âge du fer. F-A-I-R-E, l'âge du fer, quand, sous la préhistoire, nos ancêtres devaient transmettre des savoirs. Et oui, comment tailler une pierre? Comment réaliser un dessin sur une paroi de grotte? Et puis, nous allons réfléchir à l'enfance sauvage. Nous allons réfléchir au maintien du pouvoir en confisquant les savoirs. Mais aujourd'hui, attention, angoisse, il y a de plus en plus de livres. Et oui, avec l'invention de l'imprimerie, hein, comment faire face à l'accumulation d'ouvrages? Eh bien, il faut classer afin de ne pas perdre les savoirs. Et pour nous en parler, un grand plaisir de recevoir Roger Chartier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, évidemment, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes professeur invité à l'Université de Pennsylvanie, c'est aux États-Unis, et professeur au Collège de France pour la chaire écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier, c'est un micro que vous connaissez, hein, vous avez coproduit l'émission Les Lundis de l'Histoire, donc vous connaissez bien cet horaire-là, mais c'était lundi.
Oui.
C'était lundi. Et puis, vous venez... Au-delà de votre œuvre conséquente, hein, Roger Chartier, autour de ce qu'est le livre, de comment se transmet le livre et qu'est-ce que la lecture, vous venez parce que vous avez donné une préface à un ouvrage, tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne, un ouvrage qui paraît au seuil, un ouvrage d'Anne Blair, Anne A2N. Hein. Dites-nous, Roger Chartier, quand on donne une préface, c'est qu'il y a une raison, sans doute, parce que l'ouvrage vous paraît important. Pourquoi cet ouvrage est important?
C'est tout le travail d'Anne Blair qui est important, puisqu'elle est une des premières, avec Anthony Grafton, qui avait dirigé PhD, sa thèse, a porté l'attention sur ce que vous décriviez, c'est-à-dire comment, à la Renaissance, des institutions ou des instruments ont tenté de maîtriser ce qui paraissait déjà comme une prolifération inquiétante des écrits, des discours et donc des livres. Et dans cet ouvrage-ci, ce à quoi elle s'intéresse, c'est surtout comment des intellectuels, des humanistes, des lettrés... ont joué un rôle de médiateur entre les livres qu'ils lisaient ou qu'ils consultaient et les lecteurs qu'ils visaient, de là leur travail de notes, leur travail de production de notes manuscrites à partir de leur lecture, et ensuite la confection d'ouvrages qui devaient être utiles aux lecteurs pour leur éviter de lire tout ce que eux-mêmes avaient lu.
Roger Chartier, c'est vrai qu'il faut s'arrêter un moment sur cette période fascinante de l'angoisse du trop de livres. Plaçons-nous à la Renaissance, 15e, 16e siècle. Effectivement, il y a l'imprimerie qui est là, donc des livres paraissent. Que signifie cette angoisse de trop de livres? Elle est presque double, j'ai envie de dire. C'est il faut conserver, mais comment aborder tout ce qui a été conservé?
Oui. Il y a d'un côté la crainte, l'angoisse de la perte, de l'oubli, du manque, et donc des institutions sont en charge de apaiser cette inquiétude, par exemple les grandes bibliothèques, la bibliothèque de Philippe II à l'Escorial, la bibliothèque du Roi à Paris, Gallica pourrait être, au moins pour la bibliothèque française, une suite de cet effort de totalisation, de bibliothèque universelle. Derrière, il y a un fantôme ou un rêve qui était la bibliothèque d'Alexandrie, des Ptolémées, dans laquelle normalement aucun des textes qui avaient été écrits devait être absent. Et face à cela, il y a une autre angoisse qui est évidemment renforcée par l'invention de l'imprimerie, la multiplication des exemplaires, et qui est l'angoisse d'une prolifération, d'une abondance que l'on ne peut maîtriser, d'un désordre du discours qu'on ne peut pas dompter, et de là non plus des institutions qui permettraient d'éviter la crainte de la perte, mais des instruments, comme ceux qu'étudie Anne Blair, qui permettent de mettre de l'ordre et de rendre utile et utilisable ce savoir immense pour des lecteurs qui n'auront ni le temps ni la patience de parcourir ou de lire ou de consulter l'ensemble des savoirs disponibles sur tel ou tel thème.
Roger Chartier, vous avez évoqué la bibliothèque d'Alexandrie, ce qui nous conduit dans l'Antiquité. Nous sommes en Égypte avec cette bibliothèque formidable et presque fantasmée. Nous avons la conservation de l'ensemble des écrits, donc la bibliothèque universelle. Ce qui veut dire que cette angoisse de perdre, ou en tout cas la volonté de cumuler, est quelque chose qui dépasse amplement la Renaissance. On est sur un phénomène qui traverse les siècles.
Oui, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, avec le monde des écoles cathédrales et des universités, et donc de la scolastique, et donc de l'accumulation de savoir. À partir de ce moment-là, il y a la recherche des manuscrits, il y a ce que l'historien italien Armando Petrucci appelait le lire, l'écrire pour le lire. Alors que dans les monastères, en fait, on souvent copie sans lecture. C'est une copie d'immunité, de privilège, du texte sacré. Mais donc, à partir du moment où il y a ce moment du manuscrit du XIIe, XIIIe siècle, on peut dire qu'on entre dans le monde que vous décrivez. Il est renforcé, effectivement, au XVIe siècle, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va peut-être en parler, c'est l'invention de l'imprimerie. Et la deuxième, c'est que cette crainte de la perte s'est accentuée par rapport aux textes de l'Antiquité, ce qui fait que, pour nourrir ces bibliothèques universelles dont nous parlons, il faut rencontrer les manuscrits des œuvres perdues. De là, pendant un temps, les ressources des bibliothèques byzantines. De là aussi, comme on le sait, dès l'époque médiévale, la copie de manuscrits arabes, des textes des auteurs de l'Antiquité, dont aucun manuscrit grec avait survécu.
Oui, la contextualisation est essentielle pour comprendre cette angoisse de la perte pour la Renaissance des arts de l'Antiquité. Il y a comme un précédent, il y a pour les érudits la conscience d'avoir perdu à un moment ses écrits, et il ne faut plus jamais que cela se reproduise.
Absolument, puisque les pertes sont liées au fait que finalement, la littérature de savoir de l'Antiquité est un immense continent d'œuvres perdues, dont souvent nous n'avons de connaissance que par des extraits ou des tables, par exemple, qui étaient dans les instruments de travail dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ou bien même, quand au Moyen-Âge, on a copié des textes anciens, très souvent, qui manquaient dans les rouleaux que l'on copiait, puisqu'il faut penser aussi que là, on est face à deux réalités matérielles. Les livres dont nous parlons jusqu'à maintenant sont des livres comme les nôtres, avant les écrans, les codex, alors que tout le patrimoine de l'Antiquité était sous la forme de rouleaux. Et un rouleau a un contenu plus limité, ce qui fait que si l'on perdait, par exemple, deux ou trois rouleaux du début d'une œuvre immense, eh bien, cette œuvre restait à tout jamais mutilée. Donc, il y a cet effort, effectivement, cette conscience de restaurer le plus possible ce patrimoine écrit et les œuvres telles qu'elles étaient. Souvent, c'est impossible, mais en tous les cas, les efforts étaient là. Et donc, du coup, on donnait cette recherche des manuscrits dans des territoires autres que ceux de l'Occident chrétien, ou de l'Occident chrétien catholique, Byzance ou le monde arabe.
Et puis, il y a le progrès technique, l'imprimerie, évidemment. Petit tour dans les archives de la radiodiffusion française. C'était le 22 juillet 1957 quand Gutenberg invente l'imprimerie. En 1957, il l'invente à la radio.
Gutenberg arrive à Mayence en 1444. Il est maintenant en complète possession de son génie. Il a trouvé la presse, l'alliage, les techniques de fabrication des caractères. Il ne lui manque que les capitaux. Il s'adresse à un riche banquier de la ville, un certain Jean Fust. Ce Fust a une réputation assez douteuse, mais Gutenberg n'a pas le choix. Le marché est conclu et son but est d'imprimer une Bible. Avec Fust et un ouvrier d'élite dénommé Schaeffer, Gutenberg s'installe place des Franciscains à Mayence, dans la première imprimerie du monde, la première maison d'édition qui va durer 2 années. 100 ouvriers travaillent autour des presses, manipulant les poinçons, les moules, les matrices, fondant des milliers et des milliers de caractères.
Voilà, Gutenberg avec ses lettres d'imprimerie, mais qui manque de capital dans les archives de la radiodiffusion française en 1957. Gutenberg nous conduit au 15e siècle, Roger Chartier, avec l'invention de l'imprimerie. Une invention de l'imprimerie sur laquelle, évidemment, l'on focalise. C'est mérité, c'est un moment majeur de l'histoire du livre. Malgré tout, il y a une nuance à apporter. C'est-à-dire que déjà avant l'invention de l'imprimerie, il y a des livres, de plus en plus de livres, notamment grâce à d'autres progrès, le papier, tout simplement.
Oui, cet extrait était très intéressant sur la vision légendaire, mythique de Gutenberg. Par exemple, en rappelant que le premier texte imprimé par les presses de Gutenberg à Mayence n'est pas la Bible, mais des indulgences. C'est-à-dire des formulaires dans lesquels on doit remplir, si on donne de l'argent, on doit remplir ou être rempli par l'homme d'église qui les distribue, la date, la somme, et donc du coup d'avoir un abrégement des peines du purgatoire. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve que quand on parle de l'imprimerie, il ne faut pas parler simplement de l'imprimerie de livres, mais d'une imprimerie de très nombreux objets qui ont pratiquement disparu, puisque au-delà de leur utilité immédiate, ils n'avaient pas de raison d'être conservés, et qui sont les formulaires, les formes, les indulgences, les billets, etc. Alors donc, il y a cette première chose. La deuxième, vous avez raison, de la si la mention de l'imprimerie est possible, et d'ailleurs Gutenberg n'était pas le seul à réfléchir sur des moyens techniques de le faire. Pendant longtemps, on a même discuté sa priorité avec Coster en Hollande ou Waldvogel à Avignon. C'est parce qu'il y avait d'un côté ce besoin de reproduction de l'écrit et de l'autre côté des progrès de la métallurgie, des techniques du fer qui permettaient de penser à la construction d'une presse. Il y avait déjà des presses, mais pour imprimer des caractères mobiles qui imprimaient des discours. Et c'est ce moment-là qui crée les conditions de possibilité de l'invention de Gutenberg. Une autre chose qu'il faut peut-être dire pour nuancer la légende dorée de Gutenberg, c'est le fait que immédiatement il y a eu une certaine méfiance ou distance, non seulement par attachement aux manuscrits anciens, mais aussi parce que l'imprimerie a comme fonction ou comme résultat de permettre d'acquérir un livre si on a l'argent pour le faire. Ce qui fait qu'il y avait un sentiment de possible corruption. Non seulement la corruption des textes par des ouvriers, des mécaniques ignorants, mais surtout la corruption des textes par des lecteurs qui pouvaient les acquérir et n'étaient pas capables selon leurs auteurs ou selon leurs éditeurs, de les comprendre. Et donc, il y a toujours eu un contrepoint à la légende dorée de Gutenberg, qui était cette idée qu'avec l'imprimerie s'inscrivait une forme de possible corruption, tantôt de la littéralité des textes comme de leur interprétation. Mais effectivement, c'est ce moment. Alors, pourquoi aujourd'hui on a peut-être une tendance à quelques nuances? C'est parce que, contrairement à ce que dit un livre fameux qui s'appelle « L'apparition du livre », un livre qui avait été publié par le grand Lucien Febvre et Henri-Jean Martin en 1958, le livre n'apparaît pas avec Gutenberg. Pas même le livre dans la forme que nous lui connaissons, puisque c'est au début de l'ère chrétienne qu'est inventée la forme du codex, c'est-à-dire un livre qui est fait avec des feuilles de parchemin ou de papier plié, et qui permet du coup, dans la forme que nous avons, d'avoir des tables, des index, des notes marginales. Donc toutes les techniques intellectuelles qui se lient avec le livre, elles se lient fondamentalement avec l'invention du codex, à l'époque, nécessairement copiés à la main, et pas immédiatement ou seulement avec l'invention d'une technique de reproduction des textes qui est celle inventée par Gutenberg. Donc on réintroduit dans une durée plus longue, finalement, l'invention de Gutenberg en montrant que ces techniques intellectuelles étaient impossibles avec le rouleau. Vous ne pouvez pas avoir une pagination dans un rouleau qui n'a pas de page. Il n'y a pas d'index possible. Il n'y a pas de comparaison possible de deux passages du texte, puisque le lecteur doit avoir en face de ses yeux la partie ouverte du rouleau. Tous ces gestes qui nous sont très familiers et très communs, et qui sont peut-être le fondement de notre discussion de ce matin, la construction et la transmission des savoirs, sont liés à l'invention du codex. Mais il n'y a pas de nom à attacher, il n'y a pas de Gutenberg du codex. Donc c'est une invention collective et qui s'est diffusée en partie à partir des communautés chrétiennes, pas seulement, mais parce qu'évidemment la Bible est dans la religion chrétienne, c'est une religion de la comparaison, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est une religion de l'extrait, pour la prédication, pour la prière, pour la méditation. Et donc du coup, la forme du codex était bien ajustée aux besoins spirituels du christianisme.
C'est drôlement intéressant ce que vous nous racontez, Roger Chartier, vraiment de comprendre qu'avant même l'invention de l'imprimerie, ceux qui travaillaient sur le livre avaient mis en place des techniques, mais de manière presque empirique. Certaines d'ailleurs ont été en partie abandonnées. Aujourd'hui, on ne le retrouve plus. C'est vrai que l'on a longtemps conservé, même imprimé, des petites notes de marche qui résumaient le chapitre que l'on allait lire. C'était drôlement pratique, ça.
Oui, dans les marginalias sont de deux types. Il y en a qui sont, comme vous le dites, imprimés avec le livre et qui donc permettent un repérage thématique des différents passages. Et puis, les lecteurs écrivaient leurs propres marginalia dans les livres. C'est un objet aussi de Anne Blair. Et quelquefois, elles pouvaient devenir, dans des rééditions, des marginalia imprimés au service de tous. Donc, c'est effectivement, correspond à un point essentiel qui est la lecture thématique par rapport à la lecture continue. On peut lire un livre, le livre d'Anne Blair, vous pouvez le prendre la première page et le lire jusqu'à la fin, ce qu'on peut souhaiter. Mais en même temps, grâce aux index, grâce aux tables, vous pouvez en faire une lecture thématique qui extrait en fonction de vos intérêts tel passage qui est pertinent pour ces intérêts. Et ça, le rouleau ne le permet pas. Et que le codex le permet.
Voilà, le codex le permet, donc les livres imprimés tout de suite respectent ces formes mises en place parce qu'elles sont pratiques, parce qu'elles sont utiles, et on va vraiment avoir cette adaptation, cette continuité qui est l'invention de l'imprimerie, en fait, est plus une accélération technique, un changement majeur dans l'objet livre.
Je crois, oui. Évidemment, plus de livres peuvent être lus par plus de lecteurs, et un même lecteur peut lire plus de livres. Parce que quand on, c'est toute l'ambiguïté du mot livre dans notre conversation et notre langue. Le livre, c'est à la fois, bien entendu, un objet matériel. Et cet objet matériel, si vous avez une technique de reproduction mécanique, peut être multiplié à un nombre d'exemplaires infiniment plus grand que, normalement, la copie manuscrite. Mais le livre, c'est aussi le livre d'Anne Blair, c'est l'œuvre écrite par Anne Blair. C'est un discours, c'est un texte, c'est une œuvre. Et toute la discussion est évidemment autour du fait que les œuvres sont incarnées dans des livres, comme matérialité, comme objet. Et du coup, de ce point de vue-là, l'imprimerie, par la possibilité de tirage qui reste modeste, 1000, 1250, 1500 exemplaires au 16e, 17e siècle. D'ailleurs, ce qui est plus que beaucoup de tirages contemporains.
Exactement,
pour des livres de savoir et d'érudition. mais enfin, 1500 exemplaires, peuvent être obtenus dans un temps infiniment plus rapide que 1500 copies manuscrites de la même œuvre. Donc, il faut toujours penser cela. Et d'ailleurs ce que met en défi le monde numérique, puisqu'aujourd'hui, le livre comme œuvre est séparé d'un support qui lui est particulier. L'écran, il n'est pas lié à quelque texte particulier que ce soit. Il n'est même pas lié seulement à des textes lus, mais aussi à des textes que l'on écrit. Donc il y a là une rupture absolument fondamentale. Depuis le temps du codex manuscrit jusqu'au temps de l'imprimé, dans lequel nous vivons encore, cet rapport est indissociable entre le livre comme opus mechanicum, disait Kant, un objet matériel qui résulte d'un travail d'atelier qui peut être multiplié, et le livre comme discours qu'un auteur adresse au public, généralement par l'intermédiaire d'un éditeur. Et cette tension est fondamentale pour le copyright, pour le droit, pour la perception du texte. Le livre que vous avez ici sur cette table d'Anne Blair, on voit très bien que si on en lit quelques pages, sa dimension, son format, son amplitude, ce qui disparaît totalement devant la même page sur l'écran.
Oui, et ça c'est quelque chose, j'évoquais le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France qui est absolument merveilleux, ça c'est quelque chose que l'on ressent de manière évidente, une page lue dans un livre physique tel que je l'ai là entre les mains, nous fait dire précisément si nous sommes au début, au milieu, à la fin du livre. Pris comme ça, indifféremment sur un écran, cela peut nous troubler, Roger Chartier. Nous avons évoqué le fait que l'imprimerie n'a pas changé des mises en place d'annotations, de paginations qui existaient auparavant. J'ai envie de vous dire que malgré tout, aujourd'hui, Internet a conservé des formes qui nous viennent de l'apparition du codex, ne serait-ce que la notation peut exister aussi. Alors, oui. Elle va être numérique. On va retrouver la même chose avec l'indexation. On fait rechercher. On retrouve malgré tout des gestes qui, j'ai envie de dire, sont millénaires.
Et même des annotations collectives sur ce, utilisant les réseaux sociaux pour être partagées, comme au temps des humanistes. C'est tout à fait vrai. Simplement, la similarité morphologique de certains gestes ne doit pas faire oublier cette différence fondamentale qui est que l'ancien ou toujours existant concept de livre n'est plus ajusté au monde numérique pour différentes raisons. Mais la première, la plus fondamentale, étant la séparation entre le véhicule et ce qui est véhiculé.
Oui, mais ça c'est fondamental. Effectivement, de faire ce distinguo, Roger Chartier, et vous faites des conférences, hein. Qu'est-ce qu'un livre ? Ça, c'est intéressant de poser la question de base et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Et oui, comment transmettre les savoirs et notamment comment répondre à la quantité astronomique de livres? Une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui et que nos ancêtres se posaient déjà. Et avant qu'il y ait le livre, il faut le rappeler, il faut des matériaux. Parmi les matériaux, il y a de l'encre, hein, bien sûr, et il y a aussi du papier. Eh bien, allons visiter l'usine de pâte à papier, mais ça, c'est avec Charles Trenet.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Quel est donc ce beau château dans un panache de fumée dominant le grand plateau où s'entassent des ramées? Ce vieux manoir fantastique n'est en fait qu'une fabrique où des êtres vont connaître une deuxième façon de naître. Pâte, pâte, pâte à papier, pâte, pâte, pâte à papier, c'est le bruit de l'usine dont on entend les machines qui font que le métier n'a pas à papier. Pâte, pâte, pâte à papier, pâte, pâte, pâte à papier, c'est le bruit de la turbine qui fait bouillir la bibine où tourne la pâte à papier. C'est le bruit de la cuve, de son magma de Vésuve, où l'on peut s'estropier, mijoter comme une saucisse, par malheur si l'on y glisse. Attention, corona papier! Pâte, pâte, pâte à journaux, pâte, pâte, pâte à fourneau, à qui donc est cette usine? Pas à la fée, mais l'usine, elle est à papa, l'usine à papier. Un beau jour, ce grand château changera de propriétaire. J'aurai ma part de gâteau. C'est bien ça que m'a dit le notaire. C'est écrit sur un papier qui donne tout au fils unique. Et je deviendrai l'héritier de ce monstre volcanique. Pâte, pâte, pâte à papa, pâte, pâte, pâte à papier, pâte, pâte, pâte à papa, pâte, pâte, pâte à papier, pâte, 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 pâte à papa, pâte, 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 pâte à papier, pâte, 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 pâte à papa, pâte, 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 pâte à papier, pâte, 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 pâte à papa. Oh, c'est
Charles Trenet qui chante la pâte à papier dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à la transmission des savoirs à travers le livre, mais comment faire quand il y a trop de livres? Et avec nous Roger Chartier, justement, nous venons d'entendre Charles Trenet qui parle de pâte à papier. Il faut évoquer ce matériau exceptionnel, le papier.
Oui, c'est une chanson très intéressante parce qu'il parle évidemment de la pâte à papier telle qu'on l'a au 19e ou 20e siècle à partir de l'arbre. La pâte à papier des 16e, enfin à partir du 13e siècle jusqu'à la fin du 18e est faite à partir de chiffons. Et donc la collecte de tous les vêtements usés, de tous les chiffons et qui sont transformés par les moulins à papier, arrivant en Occident autour du 13e siècle, essentiellement en Italie du Sud et langues en Espagne. Et à partir de là, effectivement, c'est un support qui est disponible. On dit souvent que c'est un support très cher, ce qui est vrai pour l'édition. Parce qu'évidemment, si vous avez un énorme livre, on sait que le prix du papier rentre pour 50-60% dans le coût de production, plus que le travail même de l'atelier. Mais c'est pas vrai pour ce qu'on fait Anne Blair, si j'ose dire. C'est-à-dire que le papier pour la prise de notes, pour écrire des cahiers, n'est pas hors de prix du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient un support possible, beaucoup plus aisé que le parchemin, pour les lecteurs qui écrivent en lisant et qui sont les lecteurs humanistes. Ces lecteurs qui vont construire les ouvrages qui sont des médiations pour leurs propres lecteurs par rapport au savoir. Et donc, du coup, c'est pour elle, à partir du XIIIe siècle, là encore, il y a une possibilité qui n'existe pas avant et qui n'est pas directement liée à l'imprimerie.
Oui, voilà, ça précède l'imprimerie, la capacité, la possibilité d'écrire des petites notes sur des papiers, histoire de résumer des ouvrages.
Mais surtout d'écrire d'utiliser ces notes dans ce qu'on appelle les cahiers de lieux communs, qui est une technique fondamentale de l'humanisme, c'est-à-dire on lit pour extraire des passages, ces passages pouvant être extraits soit parce qu'ils donnent des données, des faits, soit parce que ce sont des modèles rhétoriques, soit parce que ce sont des vérités universelles. Et on les copie dans un cahier qui est organisé thématiquement. On retrouve la tension entre un lecteur qui va lire en continu un livre pour extraire des fragments et les redistribuer thématiquement et les utiliser lui-même ou elle-même pour ses propres discours, voilà, ses propres œuvres. Alors donc, du coup, là, le cahier de lieu commun est un objet absolument essentiel de cette technique humaniste de lecture.
Eh bien, justement, Roger Chartier, en écho à ces lieux communs, je vous propose la lecture par Nathalie Canoui d'un extrait de L'Avis pour dresser une bibliothèque, un ouvrage de 1627 écrit par Gabriel Naudet, qui était secrétaire et bibliothécaire de Mazarin, donc une très très belle bibliothèque. Évidemment, il est question de lieux communs.
Il ne faut aussi oublier toutes sortes de lieux communs, dictionnaires, mélanges, diverses leçons, recueils de sentences et telle autre sorte de répertoire. Parce que c'est autant de chemins faits et de matières préparées pour ceux qui ont l'industrie d'en user avec avantage. Et pour moi, je tiens ces collections grandement utiles et nécessaires, eu égard que la brièveté de notre vie et la multitude des choses qu'il faut aujourd'hui savoir pour être mis au rang des hommes doctes, ne nous permettent pas de pouvoir tout faire de nous-mêmes.
Nathalie Canoui qui lisait un extrait de cet ouvrage, Avis pour dresser une bibliothèque, de 1627. Et nous l'entendons, hein, Roger Chartier, donc lieu commun d'accord, dictionnaire, mélange. Oui. Et l'objectif est clairement exprimé, hein, préparé pour ceux qui ont l'industrie d'en user.
Oui.
C'est vraiment, il y a vraiment cette volonté-là.
C'est important parce que lieu commun est devenu au 19e et 20e siècle synonyme de ce qu'il faut éviter dans un discours. C'est le dictionnaire des idées reçues de Flaubert qui serait une compilation des lieux communs les plus ridicules, les plus usés. Donc il faut surtout pas les utiliser si on écrit. Au 16e siècle, c'est tout le contraire. Nos collègues Francis Guyat avaient montré que le lieu commun, au moins dans une de ses définitions, est sublime. Parce que c'est ce qui est universel dans une narration ou dans une description qui peut, elle, être particulière. Et donc le texte de Naudet est très intéressant parce que les lieux communs, qui étaient une technique d'écriture privée de constitution d'une archive par le lecteur, sont devenus aussi un objet d'édition. Et dès le XVIe siècle, des libraires éditeurs ont publié des lieux communs qui gagnaient du temps, puisque là, vous n'avez plus à les compiler vous-même, mais vous les trouviez tout prêts, tout disposés pour être réutilisés. Et c'est ce à quoi fait allusion Naudet. C'est le fait qu'il y a ces livres imprimés qui sont des recueils de lieux communs, parfois par matière, théologie, philosophie naturelle, parfois universelle, et que le lecteur trouve là une ressource fondamentale. Ça se lie aussi au fait que Naudet pense que la bibliothèque doit être une bibliothèque d'utilité. Comme vous disiez, une bibliothèque qui doit servir pour celui qui la possède, mais aussi ouverte à ceux qui en auraient besoin. Et ce qui s'opposait à une autre définition de la bibliothèque, du livre rare, du livre curieux, du livre précieux, qui dès le XVIe, XVIIe siècle pouvait être un peu moqué comme un goût de collectionneur qui s'intéressait beaucoup plus à la matérialité luxueuse ou bien à la rareté du livre qu'au contenu du discours. Et donc là, le texte de Naudet, et c'est un passage particulièrement symptomatique, réaffirme que la bibliothèque doit être une bibliothèque d'utilité, et pour lui, il y a les lieux communs qui ne sont pas un genre particulièrement grandiose, sont extrêmement importants à conserver.
Oui, et puis Gabriel Naudet, donc bibliothécaire de Mazarin, au XVIIe siècle, j'utilise ces mots à côté de lieu commun, dictionnaire, mélange, mais on pourrait en rajouter d'autres, hein, recueil, florilège, oui, miscellanée, compilation, il y en a tant et tant d'autres. C'est vraiment quelque chose qui se construit, oui, au XVIe, XVIIe siècle.
Je crois qu'on va on pourrait peut-être un peu d'ordre dans toutes ces catégories. Un, il y a les compilations de références. On vous donne un nom d'auteur, un titre de livre, parfois une édition. C'est ce qu'on appelle souvent bibliothèque. Alors, pas dans les murs des bibliothèques, mais le livre comme bibliothèque, et qui sont ici des instruments bibliographiques, mais sans les textes. Et après, à vous d'aller les chercher. La deuxième catégorie, c'est des citations. Là, on est dans Naudet, les recueils de lieux communs, thématiquement, amour, amitié, et toutes les citations que vous avez pu compiler ou qu'un éditeur vous propose pour cette notion. Et il y a la troisième catégorie qui sont des extraits. C'est une autre manière d'éviter la lecture de la totalité en vous donnant les extraits. Comme vous le dites, au XVIe, XVIIe siècle, sont souvent nommés polianté, miscellanée, théâtre. Le théâtre de Zwinger dont parle
Anne Blair
est un recueil d'extraits, paraphrases ou exactement cités. Donc on va depuis la référence à la citation et de la citation à l'extrait. Et au XVIIIe siècle, c'est encore un genre extrêmement important, en particulier en français, souvent employé le mot « esprit » pour désigner, parce que esprit, c'est un mot de la distillation ou de la parfumerie. C'est-à-dire qu'on extrait ce qu'il y a de plus précieux dans la gangue qu'on doit négliger. Et donc, les esprits ont souvent été la forme de circulation des livres. Et on peut se méprendre quelquefois en pensant que les lecteurs ont lu, par exemple, tous les volumes de l'histoire des deux Indes, de Raynal et Diderot. Mais, comme l'avait montré un collègue allemand, Luce Brink, ce qui a circulé, c'était des recueils d'extraits des discours sur les deux Indes. Donc c'est trois catégories, et ce qui est aussi important, c'est les mots pour les désigner. Bibliothèque est un mot qu'on emploie très souvent, à la fois pour le premier sens, c'est-à-dire les références bibliographiques, ou pour le troisième. Au XVIIIe siècle, on va avoir la Bibliothèque universelle des romans. Eh bien, c'est une série de textes, parfois abrégés, d'une immense compilation des romans du temps passé. Une autre métaphore très importante pour cette question, et qui nous ramène à votre point de départ, c'est l'opposition entre la forêt et le jardin. Dans le vocabulaire du siècle d'or espagnol, les livres peuvent être désignés soit comme une selva, comme une forêt, alors qu'il maintient un peu l'aspect touffu, confus, accumulatif, un peu inquiétant. Et puis, la mise en ordre, elle donne la publication de Jardín de varias flores, un jardin des fleurs nombreuses, et qui sont là comme dans un parterre, bien distribuées.
Oui, la métaphore est sublime et elle est presque rassurante, en fait, face à l'accumulation de livres, de se dire « je vais me promener dans un jardin », donc un livre qui me guide est rassurant. Comment l'expliquez-vous, Roger Chartier? C'est une réponse à l'angoisse du trop de livres? C'est la volonté de pouvoir consulter un maximum de livres qui explique ces productions?
Nous pourrions évoquer Michel Foucault, qui, dans l'ordre du discours, avait opposé la prolifération des discours, considérée comme inquiétante, comme impossible de maîtriser, impossible de dompter. Et tout son travail était sur les dispositifs qui permettent la raréfaction, c'était un de ses mots, de cette prolifération. Et alors pour lui, les disciplines scientifiques, l'attribution à un nom d'auteur, étaient des procédures de raréfaction. Comme il s'intéressait plus au discours qu'aux objets, évidemment, matériels. Il n'a pas mis dans cette perspective ce dont on parle ce matin et qui est très important. C'est-à-dire que les dispositifs de production d'une raréfaction qui permet une mise en ordre ne sont pas simplement textuels, mais ils sont aussi matériels, et matériels et textuels à travers toutes ces classements. Parce qu'on peut ajouter, et ça c'est très Naudet, que à ces instruments qui visent à extraire l'essentiel, peuvent s'adosser aussi les classifications dans la bibliothèque. où là on conserve les ouvrages dans leur totalité, mais dont l'utilité dépend fondamentalement de la capacité à les retrouver.
Et bien justement, sur le classement des thèmes, on va écouter la lecture du prospectus de l'encyclopédie. C'est Jean-Baptiste Malartre de la Comédie-Française qui nous le lit. C'était dans l'émission Lieu de mémoire sur France Culture en septembre 1997.
L'histoire s'est distribuée en ecclésiastique, civil, naturel, littéraire, etc. La philosophie en sciences de Dieu, de l'homme, de la nature, etc. La poésie en narrative, dramatique, allégorique, etc. De là, théologie, histoire naturelle, métaphysique, mathématiques, etc., météorologie, hydrologie, etc., mécanique, astronomie, optique, etc. En un mot, une multitude innombrable de rameaux et de branches dont la science des axiomes ou des propositions évidentes par elles-mêmes doit être regardée dans l'ordre synthétique comme le tronc commun.
Lecture du prospectus de l'encyclopédie, donc nous sommes au XVIIIe siècle, par Jean-Baptiste Malartre. C'est intéressant de tendre ce classement parce que ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est comment maîtriser l'information à l'époque moderne. Ça, c'est le sous-titre de l'ouvrage Anne Blair. Hein. Oui. Tant de choses à savoir. Il est intéressant, ce prospectus de l'encyclopédie, Roger Chartier.
Oui, mais il est paradoxal parce que l'encyclopédie n'est pas organisée selon cette division des champs de savoir. Elle est un dictionnaire. Parce qu'évidemment, c'était plus facile du point de vue d'une publication de demander les articles qui commencent par A et puis de suivre. Si on suivait l'ordre encyclopédique, il fallait attendre la totalité du manuscrit. Bon, et on sait que déjà dans cet ordre de dictionnaire, avec tous les ennuis qu'ils ont eu parfois avec la censure, cela a pris beaucoup de temps. Et donc le paradoxe de l'encyclopédie, c'est le fait qu'il propose dans le prospectus un ordre encyclopédique que l'on retrouve avec l'arbre des connaissances et que l'on retrouve parce que chaque article tient une référence à là où il devrait se placer dans l'ordre encyclopédique. Mais le livre lui-même est un dictionnaire. Et donc c'est une tension qui est absolument fondamentale et qu'on peut parfois retrouver dans le classement de nos bibliothèques. Un ordre parfait, thématique, et qui donnerait un accès immédiat à une visibilité des champs de savoir pour dans lesquels s'inscrivent les livres possédés. Et puis le fait de la série qui fait que les livres arrivent les uns après les autres, et ils s'empilent et ils se mettent dans un désordre du discours. Donc je crois que le prospectus est très intéressant. L'autre point important, il me semble, dans l'écho du prospectus, c'est le fait que c'est la première fois que l'opposition entre savoir et savoir-faire, c'est-à-dire les savoirs savants, les savoirs des érudits, des humanistes, dont on a discuté jusqu'ici, et puis des savoirs qui sont des savoirs pratiques, les savoirs des métiers, les savoirs des ateliers, sont réunis. D'une part parce qu'on a demandé parfois à des hommes du l'art d'écrire l'article. L'article imprimé est écrit par un imprimeur. Et parce qu'il y a les volumes de planches. Et c'était une innovation importante puisque auparavant, bien sûr, existent des livres manuscrits ou imprimés, des métiers. Ce que l'on appelle livre de portraiture en français, livre de boutique en italien, Kunstbuchreihen en allemand. Mais ils étaient un secteur tout à fait spécifique de la production écrite. Avec le projet de Diderot, ils entrent dans l'architecture des savoirs.
L'architecture des savoirs. Roger Chartier, vous avez préfacé l'ouvrage d'Anne Blair, tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, hein, la main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, les origines culturelles de la Révolution française aussi, mais surtout lecture et lecteur dans la France d'Ancien Régime. Et parmi tous ces ouvrages, il y a une réflexion, en fait, qui fait un écho à ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'ouvrage d'Anne Blair, publié il y a maintenant 10 ans aux États-Unis, donc traduit au seuil, a connu un succès. Parce qu'il a fait écho à nos problèmes du moment. C'est drôlement intéressant ça, de se dire qu'un ouvrage d'histoire qui pourrait être pointu, érudit, alors que c'est très...
Il l'est, oui.
Il l'est, mais c'est vrai qu'il fait écho à nos préoccupations. Et c'est vrai que, vous le dites dans votre préface, il y a presque une surprise quand l'ouvrage a paru aux États-Unis de voir le succès populaire qu'il a rencontré.
Oui, parce qu'elle étudie des auteurs absolument inconnus, qui sont ces auteurs de notes, cahiers de lieux communs, méthodes de lecture. Et donc, ce ne sont pas ni Montaigne, ni Shakespeare qui sont là présents. Donc, oui, c'est étonnant. Mais je pense que c'est un écho, effectivement, hein, que la même inquiétude, l'inquiétude de du monde digital ou numérique, c'est d'un côté la mémoire absolue, rien ne se perd. Tout est conservé pour toujours. Et puis de l'autre côté, et même si on peut nuancer cette première affirmation, mais au moins il y a cette croyance. Pour l'autre côté, c'est comment maîtriser ce flux d'informations en permanence produites et reproduites, et aussi les risques qu'ils comportent, c'est-à-dire le risque non seulement du désordre du discours, mais aussi le risque de la confusion entre ce qui serait des faux savoirs, des falsifications, des forgeries, et puis les savoirs authentiques que la culture imprimée permet plus ou moins d'établir, puisque en fonction de l'édition, en fonction du genre du livre, en fonction de ses caractéristiques, on peut estimer qu'il a plus de degrés de fiabilité, de confiance que d'autres. Dans le monde numérique, il y a un flux continu d'écrits. Et la séparation entre ce qui peut être reçu et ce qui devrait être rejeté n'est pas aussi simple à établir.
Avec Roger Chartier, toujours cette rigueur, tant sur le numérique que sur l'imprimé, de regarder un petit peu qui produit. Et je vous propose juste un jeu, justement, en écho à cette angoisse d'aujourd'hui face à la multitude et à celle du passé. Nous allons écouter un texte d'Adrien Bayet, qui écrit au XVIIe, en 1685, Le jugement des savants. Il évoque cette peur face à la multitude. Nous allons l'écouter comme si nous étions aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui ?
On a sujet d'appréhender que la multitude des livres qui augmentent tous les jours d'une manière prodigieuse ne fasse tomber les siècles suivants dans un état aussi fâcheux qu'était celui où la barbarie avait jeté les précédents depuis la décadence de l'Empire romain. Si l'on ne tâche de prévenir ce danger par le discernement de ceux qu'il faut rejeter ou laisser dans l'oubli, d'avec ceux que l'on peut retenir. Et si l'on ne fait encore dans ceci le choix de ce qui peut être utile, d'avec ce qui ne l'est pas.
Nathalie Canoui, qui nous lisait ce texte d'Adrien Bayet, donc en 1685, qui évoque son appréhension face à la multitude de livres et qui dit « mais il faut peut-être réfléchir à ceux qu'il faut laisser dans l'oubli et ceux que l'on peut retenir ». Roger Chartier, il y a quelque chose d'intéressant dans cet écho parce que ça nous parle à nous aujourd'hui encore.
La grande différence, je pense, c'est que ce serait en quelque sorte l'écologie du livre. Dans le temps de Bayet, le livre est un objet immédiatement séparé, différent d'autres objets écrits. Ce qu'on a évoqué, des cahiers manuscrits, des notes manuscrites, tous ces formulaires imprimés dont on a parlé dès les indulgences de Gutenberg. Donc il y a une identité immédiatement reconnaissable de ce que l'on appelle un livre, à la fois comme discours, mais comme discours véhiculé dans un objet spécifique. Aujourd'hui, l'écologie de l'écrit est toute différente, parce que sur les écrans, le continuum est absolu entre ce que l'on pourrait encore appeler des livres électroniques, c'est-à-dire des livres qui respecteraient dans la reproduction électronique l'architecture du texte, et puis cet immense flux, quantité de tous les autres écrits, et qui sont produits avec les mêmes formes, sur le même support, par exemple les réseaux sociaux. Et donc je crois que c'est une différence, c'est-à-dire qu'un livre, même la notion de livre peut changer, non pas parce que le livre change, mais parce que le monde de l'écrit dans lequel il se trouve situé a profondément changé. Et c'est cela qui est un objet d'inquiétude par rapport à cette citation, où il est question effectivement, comme l'oubli peut être une condition de la mémoire, ici ce serait la disparition d'un certain nombre d'écrits qui est une condition du savoir. C'est le paradoxe que développe Bayet. Aujourd'hui, effectivement, le déplacement de cette inquiétude, elle serait sur est-ce que les pratiques de lecture qui sont impliquées massivement par les textes brefs des réseaux sociaux sont en train de s'appliquer ou vont s'appliquer ou sont déjà appliquées à des lectures que nous considérions comme d'un autre ordre, et que la matérialité des objets rendait visible, et qui étaient les lectures plus lentes, critiques, de ce qu'on appelle un livre, en particulier des livres de savoir. Et je crois que c'est là l'inquiétude. C'est le fait qu'elle est plus du côté des pratiques de lecture modelées par la lecture impatiente, pressée, accélérée, et souvent sans consultation critique, sans distance critique, qui se fait face aux textes multipliés à l'infini par les réseaux sociaux, et la lecture qui pourrait ou devrait être différente de ce que l'on appelle un livre de savoir, un livre de connaissances, ou même peut-être même une fiction narrative, et qui suppose l'inverse, c'est-à-dire une certaine lenteur, une conception de la totalité, une perception, comme vous disiez, de l'œuvre tout entière à l'intérieur de sa forme matérielle, et surtout l'idée que information ou affirmation peuvent être soumises à un contrôle.
Oui.
Par la relation avec d'autres sources et d'autres lieux de l'information.
Et puis,
c'est ça, la grande angoisse. Alors, peut-être que Bayen ne l'avait pas au même point, mais aujourd'hui, c'est celle-ci qui nous préoccupe.
Avec la question aussi du vecteur, c'est-à-dire que dans un livre qui est un recueil de citations, tout simplement, du XVIIe siècle, imaginons-le, nous avons un vecteur qui nous conduit à regarder, lire ces citations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une masse et on ne sait plus où aller.
Surtout que le sens du fragment s'est transformé, puisqu'effectivement, tous les livres dont on a parlé ce matin sont des fragments. Ils ont extrait et ils ont recomposé. Bon, que ce soit des citations ou des esprits. Donc, on pourrait dire, il y a une continuité morphologique. Une grande, les pratiques de lecture s'appuient sur des fragments. Et aujourd'hui, on le sait, il y a la lecture digitale, numérique, est une lecture du fragment, du segment. La grande différence, c'est que dans la première perspective, la plus historique, le fragment est toujours relié, situé et localisé dans la totalité textuelle à laquelle il appartient. La notion d'architecture textuelle pour définir le livre fait que chaque pièce, comme dans une cathédrale gothique, joue un rôle et a une importance. Et donc on sait qu'on fragmente, mais on fragmente à la fois pour avoir lu la totalité et pour produire d'autres totalités. Alors que la tendance aujourd'hui, c'est évidemment à une tendance de l'autonomisation des fragments, qui ne sont plus reliés ni aisément, ni nécessairement, avec la totalité dans laquelle ils ont été fragmentés. Alors peut-être c'est une nouvelle forme de culture écrite, c'est possible, mais en même temps elle présente évidemment des risques par rapport à la compréhension de toutes les œuvres qui ont été construites dans une autre logique.
Votre propos, Roger Chartier, interpelle, c'est certain, nos auditeurs, nos auditrices, ça nous parle à nous, cet ouvrage que vous préfacez, hein, Anne Blair, tant de choses à savoir au seuil, et puis je renvoie à tous vos ouvrages parce que c'est toujours un plaisir, je pense que nous l'avons entendu, merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire aujourd'hui et il est l'heure de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, un conflit historique autour de la profondeur du décolleté.
C'est une petite affaire, un de ces rien du tout de l'actualité, une affaire minuscule qui convoque l'ordre moral et surtout les négociations incessantes dont il fait l'objet. Au grand dam de ses défenseurs acharnés, c'était la semaine dernière à Paris.
Voici la robe de l'incident. Mardi, Jeanne la porte alors qu'elle tente d'entrer au musée d'Orsay.
Arrivée à l'entrée du musée, je n'ai pas le temps de sortir mon billet que la vue de mes seins et de mon apparat tout dépoitraillé choque une agente chargée du contrôle des réservations.
Après discussion avec plusieurs agents et responsables, Jeanne est sommée de se couvrir avant d'accéder au musée.
Une jeune femme s'est donc vue presque interdire l'entrée au musée d'Orsay parce que sa tenue violait la sacralité du temple du génie pictural français du XIXe siècle. Bertrand Tillier, historien des images, s'est indigné sur Twitter du caractère ahurissant de cet événement, intervenu dans un musée où le corps nu ou dénudé s'expose dans nombre de salles. À commencer peut-être par l'origine du monde de Gustave Courbet, qui a cessé de faire scandale depuis maintenant quelques temps. Mais ce décolleté vertigineux devait bousculer l'ordre du lieu durablement, puisque quelques jours plus tard, un groupe de militantes fémaines s'est planté torse nu dans le dit musée en répétant le slogan « Mes seins ne sont pas obscènes » pour dénoncer un sexisme obsolète. Les âmes sensibles parmi les visiteurs présents ce jour-là ont probablement été achevées une bonne fois pour toutes. Entre-temps, la direction de l'établissement avait pourtant présenté toutes les excuses possibles à la visiteuse malmenée et les parties en présence s'étaient quittées dans les meilleures dispositions. L'affaire nous fait sourire aujourd'hui et c'est tant mieux parce qu'au siècle auquel se consacre justement le musée d'Orsay, la profondeur d'un décolleté pouvait vous mener devant les tribunaux. L'historienne Corinne Legoix fait le récit de ce procès dans la revue Mode Pratique, un duel judiciaire autour des normes de la pudeur. La baronne de Korff avait refusé de régler la couturière Delphine Baron pour la commande de costumes destinés à ses filles qui devaient se rendre au prestigieux bal masqué du duc de Morny le 2 mars 1859. La couturière réclamait son dû et argumentait, avec l'appui de son avocat, que ce décolleté se portait très bien sur le boulevard du crime pour ses contemporains, où se jouaient chaque soir dans ses nombreux théâtres les mélodrames qui avaient la faveur de toutes les classes sociales du Second Empire. La défense de la baronne s'indignait à la barre, je cite, « s'en serait fait de la grâce française et du goût français si les couturières faisaient la loi ». C'était bien mal connaître la circulation des pratiques et des modes et la vitalité du changement social par les usages. Cette futile affaire de chiffon en apparence nous dévoile la violence des rapports de classe sous le Second Empire au moment où se joue une bataille cruciale. La remise en cause du statut d'arbitre du goût, jusqu'ici monopolisé par la noblesse, par le monde de la couture. Le vêtement devient l'objet d'une lutte acharnée, du conflit entre la société d'Ancien Régime et celle qui s'apprête à la remplacer, pourtant sans violence. Au musée d'Orsay, la semaine dernière, l'histoire nous a rattrapés par le col, le décolleté redevenait sujet de crispation. En 1859, le décolleté avait perdu la bataille, et la couturière s'était vue condamnée à verser des indemnités à la baronne sans obtenir le règlement de sa facture. Aujourd'hui, la visiteuse décolletée du musée d'Orsay sort victorieuse de cette crispation autour de la cohabitation des systèmes de normes dans l'espace public.
Eh bien voilà, merci Anaïs. On retrouve le journal de l'Histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Pascale Viudès, Odile Joessel, Valentine Lovrin. Une émission programmée par Maïwenn Guizhou, à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en baladodiffusion. Demain, loin des savoirs, loin du pouvoir, oui, monopoliser le pouvoir en éloignant les femmes et les pauvres du savoir. Et vous dire aussi que vendredi, nous allons rendre hommage à Dominique Khalifa qui nous a quittés. À demain pour la suite du cours de l'Histoire.